un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour, aujourd'hui, confinement oblige bien sûr, eh bien, je vais vous présenter en solo l'auteur Carson McCullers. Donc, elle est née Lula Carson Smith, qui est une romancière et nouvelliste américaine. Donc, elle est décédée, elle est née d'abord le 19 février 1917 à Columbus, en Géorgie, et elle est décédée à 50 ans le 29 septembre 1967 à Nyack. Alors, elle abandonne une partie de son nom en 1930 pour se faire appeler Carson. Et elle écrit sa première nouvelle, Soccer, à l'âge de 16 ans. Elle est précoce, hein. Et donc, elle passe 2 ou 3 ans à suivre quelques cours de littérature à l'Université Columbia et aussi à l'Université de New York et à s'essayer à plusieurs emplois jusqu'à ce qu'en 1936, elle publie sa première nouvelle intitulée L'enfant prodige. Donc après son mariage en 1937 avec Reeves McCullers, elle va vivre à Charlotte en Caroline du Nord où elle commence son premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire, qui sera édité en 1940, un texte sur les déchirements de l'adolescence qui la rendra immédiatement célèbre. Il va être adapté à l'écran d'ailleurs en 1968 par Robert Ellis Miller. Alors en 1941, elle divorce et va scandaliser la bonne société par son mode de vie autodestructeur et surtout ses liaisons homosexuelles. D'ailleurs, elle dédie son deuxième roman, Reflet dans un œil d'or, en 1941, qui a été adapté d'ailleurs au cinéma par John Huston en 1967, avec Marlon Brando et Elizabeth Taylor. Donc, elle dédie son livre à Anne-Marie Schwarzenbach, dont elle est tombée follement amoureuse. En 1946, elle va publier Frankie Adams, son troisième roman, qui sera également adapté au cinéma par Claude Miller en 85 sous les titres de L'effronté avec Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont et Jean-Claude Brialy. Ensuite, elle va rencontrer Tennessee Williams, puis part en voyage en Europe avec Reeves McCullers, qu'elle a réépousé en 1945. En 47, elle a une première grave crise de rhumatisme particulière, mal soignée, qui de rechute en attaque cérébrale va peu à peu lui paralyser les membres. Elle tente même de se suicider. Et à partir de 1950, elle est quasiment hémiplégique et elle ne pourra bientôt plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Et en 1951, elle continue d'écrire donc hein, et elle publie son recueil de nouvelles, La balade du café triste. Et c'est donc dans ce recueil de nouvelles qu'on a extrait donc Madame Zelensky et le roi de Finlande. Donc vous allez voir une belle histoire raconté par Philippe et moi-même.
Madame Zelensky est le roi de Finlande. Le mérite d'avoir attiré Madame Zelensky au Ryder College revenait à Monsieur Brooke, directeur de la section musique. Et c'était une grande chance pour cette université, car elle jouissait d'une réputation considérable qui concernait autant le professeur que le compositeur. Monsieur Brooke avait tenu à s'occuper lui-même de lui dénicher une maison avec jardin, aussi confortable que possible, assez voisine de l'université et contiguë à celle qu'il habitait. Personne à Westbridge n'avait rencontré Madame Zelensky avant son arrivée. Monsieur Brooke avait vu quelques photographies d'elle dans diverses revues musicales. Il lui avait écrit une fois au sujet d'un manuscrit de Buxtehude dont il suspectait l'authenticité. Lorsqu'elle accepta de venir enseigner à l'université, ils échangèrent un certain nombre de lettres et de télégrammes pour mettre au point les détails pratiques. Elle avait une grande écriture carrée, très lisible. Ses lettres étaient tout à fait normales, à ceci près qu'elle faisait allusion parfois à des choses ou à des personnes inconnues de M. Brooke, comme « le chat jaune de Lisbonne » ou « ce pauvre Heinrich. Ses légères défaillances de mémoire s'expliquaient, selon lui, par les difficultés qu'elle avait dû surmonter pour quitter l'Europe avec sa famille. Monsieur Brooke était un être en demi-teinte, des années de menuet de Mozart et de cours sur les septièmes diminués et les accords mineurs lui avaient forgé une patience professionnelle à toute épreuve. Il vivait le plus souvent à l'écart, il avait en horreur le tralala universitaire avec ses assemblées. Lorsque la section musique avait décidé, quelques années plus tôt, de passer les vacances d'été à Salzbourg, il s'était défilé au dernier moment pour faire, en solitaire, un voyage au Pérou. Sujet à quelque originalité personnelle, il était d'une grande tolérance pour celle d'autrui. Ou plutôt, il avait le sens du ridicule. Devant une situation grave mais incongrue, il était saisi d'un petit amusement intérieur qui raidissait son doux visage aux traits allongés et accentuait l'éclat de ses yeux gris. Une semaine avant le début du semestre d'automne, M. Brooke se rendit à la gare de Westbridge pour accueillir Mme Zielinski. Il la reconnut aussitôt. Très grande, très droite, le visage pâle et décharné, des yeux sombres, une broussaille de cheveux bruns et courts rejetés en arrière, de longues mains fragiles et mal soignées. Il émanait de sa personne quelque chose de si noble et de si fier que M. Brooke hésita un moment à aller au-devant d'elle et attendit en jouant nerveusement avec ses boutons de manchette. La façon dont elle était habillée, longue jupe noire, vieille veste de cuir déchirée, n'enlevait rien à son allure élégante. Trois enfants l'accompagnaient, trois garçons, entre 6 et 10 ans, beaux et blonds tous les trois, avec un regard totalement inexpressif. Il y avait quelqu'un d'autre avec eux, une vieille femme, qui se révéla par la suite être la domestique finlandaise. Tel était le groupe que M. Brooke trouva à la gare. Il n'avait pour tout bagage que 2 énormes cartons de partition, le reste ayant été égaré à la gare de Springfield lorsqu'ils avaient changé de train. Chose qui peut arriver à n'importe qui. Ayant réussi à faire entrer tout ce monde dans un taxi, M. Brooke pensait que le plus difficile était accompli, lorsque Mme Zielinski tenta de l'enjamber pour atteindre la portière.
« Seigneur Dieu, j'ai laissé mon... comment dites-vous ? Mon tic-tic-tic ? »
« Votre montre ?»«
Non, non, vous voyez bien mon tic-tic-tic ?»
Elle agitait son index de droite à gauche comme un pendule. « Tic, tic, tic !» répéta M. Brooke. Il porta les mains à son front, ferma les yeux quelques secondes. « Vous voulez parler d'un métronome ?»«
C'est ça. J'ai dû le perdre quand nous avons changé de train. »
M. Brooke réussit à l'apaiser. Il alla même jusqu'à lui promettre, avec une galanterie irraisonnée, qu'il lui en procurerait un autre dès le lendemain. Mais il ne put s'empêcher de trouver étrange qu'ayant perdu tous ses bagages, elle se sente paniquée pour son seul métronome. La famille Zielinski prit donc possession de la maison voisine et, en apparence, tout était parfait. Les trois garçons étaient très sages, ils avaient pour prénoms Sigmund, Boris et Samy. Ils ne se séparaient jamais et se déplaçaient en file indienne, Sigmund généralement en tête. Ils parlaient entre eux une sorte d'espéranto effrayant à entendre, fait de russe, de français, de finnois, d'allemand et d'anglais. En présence de tiers, ils gardaient un silence absolu. Rien de ce que faisaient ou disaient les Zielinski ne pouvait inquiéter M. Brooke, à certains petits détails près. Ainsi, lorsqu'ils voyaient les enfants Zielinski entrer dans une pièce, quelque chose dans leur attitude tracassait son subconscient. Il finit par s'apercevoir qu'ils ne marchaient que sur le plancher nu. S'il y avait un tapis, ils le contournaient en file indienne. Et, si la pièce était couverte de moquettes, il restait sur le seuil de la porte. Autre chose, les semaines passaient et Mme Zielinski ne faisait aucun effort pour meubler sa maison. Il n'y avait qu'une table et des lits. La porte d'entrée restait ouverte jour et nuit. L'endroit prit très vite un aspect bizarre et désolé, comme s'il était abandonné depuis des années. L'université avait toutes les raisons d'être satisfaite de Mme Zielinski. Elle donnait ses cours avec une ardeur passionnée. Elle piquait de violentes colères lorsqu'une quelconque Mary Owens ou Bernardine Smith ne parvenait pas à trier correctement Scarlatti. Elle avait fait installer 4 pianos dans sa classe et demandé à 4 étudiants abasourdis de s'y asseoir en même temps pour travailler les fugues de Bach. Il venait de sa section un tumulte extraordinaire, mais elle avait des nerfs à toute épreuve et, s'il suffisait de beaucoup d'énergie et de volonté pour venir à bout d'un thème musical, le Ryder College ne pouvait souhaiter mieux. La nuit, Madame Zielinski travaillait à sa 12e symphonie. Elle semblait ne jamais dormir. Quelle que soit l'heure à laquelle M. Brook jetait un coup d'œil par la fenêtre de son salon, il apercevait de la lumière dans le bureau de Madame Zielinski. Non, en vérité, si M. Brook en vint peu à peu à se poser des questions, ce ne fut pas pour des raisons d'ordre professionnel. C'est à la fin d'octobre qu'il sentit, de façon évidente, que quelque chose n'allait pas. Il venait de déjeuner avec Madame Zielinski. Il avait écouté avec un réel plaisir le récit d'un safari auquel elle avait participé en Afrique, aux environs de 1928. Un peu plus tard, dans l'après-midi, elle frappa à son bureau, mais resta dans l'encadrement de la porte, l'air rêveur. Monsieur Brook leva les yeux. « Puis-je quelque chose pour vous ?»«
Non, merci. »
Elle avait une voix très belle, sombre et grave.
« Je me demandais seulement, vous vous souvenez du métronome ? À votre avis, je l'ai peut-être laissé chez ce Français.
Qui ?»« Qui ?»«
Ce Français, voyons, avec qui j'étais mariée. »«
Un Français ?» dit Monsieur Brook d'une voix neutre. Il tenta d'imaginer le mari de Madame Zielinski, mais son esprit s'y refusa. Il murmura comme pour lui-même. « Le père des garçons ?»«
Pas du tout, le père de Samy. »
Monsieur Brook était doué d'une intuition extrêmement rapide. Ses instincts les plus profonds lui conseillaient d'en rester là. Son respect de l'ordre et son honnêteté le poussèrent pourtant à demander « Qui est le père des deux autres ?» Elle porta l'une de ses mains à sa nuque et ébouriffa ses cheveux courts. Elle avait le visage pensif. Elle mit un peu de temps à répondre.
Boris est un Polonais qui jouait du piccolo.
Sa voix était d'une extrême douceur. Et Sigmund ? Monsieur Brook baissa les yeux vers son bureau, impeccablement en ordre, une pile de copies corrigées, 3 crayons bien taillés, un presse-papier en défense d'éléphant, puis regarda de nouveau Madame Zielinski. Elle semblait absorbée dans ses réflexions. Fronçant les sourcils, bougeant les mâchoires, elle examinait attentivement les 4 coins de la pièce. Au bout d'un long moment, elle demanda.
« Nous parlions du père de Sigmund ?»«
Non, non, ce n'est pas nécessaire. » Elle dit alors d'une voix digne et sans appel.
« Un compatriote. »
De toute façon, pour M. Brook, c'était sans importance. Il n'avait aucun préjugé. Il acceptait parfaitement que les gens se marient 17 fois et mettent au monde des enfants chinois. Cependant, les déclarations de Madame Zielinski le laissèrent perplexe. Il comprit brusquement pourquoi. Les garçons ne ressemblaient pas du tout à leur mère, mais se ressemblaient tous les 3 de façon surprenante. Comme ils étaient de pères différents, cette ressemblance était déconcertante. Madame Zielinski en avait terminé avec ce sujet. Elle remonta à la fermeture éclair de sa veste de cuir et fit demi-tour.
« J'en suis sûre maintenant. Je l'ai laissé chez ce Français. »
À la section musique, tout allait pour le mieux. Monsieur Brook n'avait à résoudre aucun problème délicat, comme celui qu'avait posé l'an dernier le professeur de harpe en s'enfuyant avec un garagiste. Seul le tourmentait cette impression d'incertitude qu'il éprouvait devant Madame Zielinski, sans parvenir à comprendre ce qui n'allait pas dans leur relation, ni ce qui rendait si complexes les sentiments qu'il lui portait. Il y avait d'abord ceci. C'était une grande voyageuse et sa conversation était truffée de références à des endroits perdus au bout du monde. Ceci également. Elle était capable de rester silencieuse des journées entières, arpentant les couloirs, les mains dans les poches, plongée dans une méditation sans fin et, brusquement, de se jeter sur M. Brook et de commencer un monologue interminable et passionné, les yeux brillants d'exaltation, la voix tremblant d'impatience. Elle parlait de tout et de rien. Mais, quel que soit le sujet de son récit, il finissait toujours par se teinter de couleurs étranges et lorsqu'elle parlait simplement de conduire Sigmund chez le coiffeur, on se sentait aussi dépaysé que si elle racontait un après-midi à Bagdad, M. Brooke ne parvenait pas à comprendre pourquoi. La vérité lui apparut de façon soudaine, et sans rendre tout parfaitement intelligible, elle clarifia du moins la situation. Il était rentré chez lui de bonne heure et allait allumer son feu dans la petite cheminée de son salon. Il se sentait ce soir-là en paix avec lui-même, assis devant son feu, en chaussettes, ayant près de lui, sur un guéridon, un volume de William Blake et un petit verre d'eau-de-vie d'abricot. À 10 heures, il se mit à somnoler doucement, l'esprit traversé par quelques phrases brumeuses de Mahler et quelques pensées imprécises. Tout à coup, émergeant de ce tendre engourdissement, 4 mots s'imposèrent à lui. Le roi de Finlande. Mots qui lui semblèrent familiers, mais qu'il ne put tout d'abord attacher à aucun contexte. Il finit pourtant par en retrouver la piste. L'après-midi même, il traversait le campus. Madame Zielinski l'avait arrêté et s'était lancé dans un discours incohérent qu'il n'avait écouté que d'une oreille distraite, préoccupé qu'il était par les exercices de canon renversés que venaient de lui remettre ses élèves de contrepoint. Les mots lui revenaient maintenant et jusqu'aux inflexions de voix avec une surprenante exactitude. La première phrase de Madame Zielinski avait été
« Je regardais un jour la devanture d'une pâtisserie lorsque le roi de Finlande est passé en traîneau. »
Monsieur Brooke se redressa dans son fauteuil et reposa son verre d'eau-de-vie. Sur le plan pathologique, cette femme était une menteuse. Presque tout ce qu'elle disait en dehors de ses cours était mensonger. Si elle avait travaillé toute la nuit, elle était capable de prétendre qu'elle avait passé la soirée au cinéma. Si elle avait déjeuné à la vieille taverne, il lui prenait la fantaisie d'affirmer qu'elle était restée chez elle avec ses enfants. La véritable explication était là. Sur le plan pathologique, cette femme était tout simplement une menteuse. Monsieur Brooke fit craquer ses articulations et se leva. Il était au comble de l'exaspération. Comment ? Elle avait l'audace de venir s'asseoir jour après jour dans son bureau, en face de lui, et de le noyer sous un déluge de mensonges éhontés. Il se sentait profondément ulcéré. Il se mit à marcher de long en large dans son salon, puis se rendit dans sa petite cuisine et se prépara un sandwich aux sardines. Une heure plus tard, comme il était assis de nouveau devant le feu, son exaspération s'était muée en une vague méditation studieuse. Une seule chose à faire, se disait-il, envisager l'ensemble de la situation de façon impersonnelle et examiner Madame Zielinski avec le détachement d'un médecin face à son malade. Ses mensonges étaient d'une candeur parfaite. En travestissant la vérité, elle ne cherchait pas à vous induire en erreur et elle n'attendait de ses mensonges aucun avantage. C'est d'ailleurs ce qui paraissait le plus inquiétant. On ne trouvait à son comportement aucun motif explicable. Monsieur Brooke acheva de boire son eau de vie. Il était près de minuit lorsqu'il sentit qu'il faisait un nouveau pas vers la vérité. Madame Zielinski mentait pour une raison très simple et très triste. Elle avait été obligée de travailler toute sa vie, son piano, ses cours et ses 12 énormes et admirables symphonies. Elle s'était, jour et nuit, consacrée, acharnée, sacrifiée, corps et âme à ce travail épuisant, et il n'y avait eu place pour rien d'autre. Comme c'était un être humain, cette privation la faisait souffrir. Elle cherchait sans cesse à y remédier. Si elle avait travaillé toute une soirée à la bibliothèque et si elle prétendait le lendemain avoir joué aux cartes, elle se donnait l'impression d'avoir fait les deux choses en même temps. Ses mensonges lui permettaient de vivre par procuration. Les rares instants de sa vie qu'elle ne consacrait pas à son travail prenaient ainsi une double dimension et le cadre étroit de son existence personnelle s'élargissait peu à peu. Monsieur Brooke regarda le feu. Mais il avait dans l'esprit le visage de Madame Zielinski. Un visage sévère, aux yeux sombres et fatigués, à la bouche délicatement dessinée. Il sentait naître en lui une sorte de chaleur qui était à la fois de la pitié, un désir de protection et une redoutable compréhension. Il resta ainsi un long moment en proie à un délicieux désarroi. Un peu plus tard, en se brossant les dents et en mettant un pyjama, il se dit qu'il fallait être réaliste. En quoi y voyait-il plus clair ? Le français, le polonais au piccolo, Bagdad ? Et les enfants, Sigmund, Boris, Samy, qui étaient-ils? Étaient-ils vraiment ses enfants après tout? Ou les avait-elle ramassés ici et là? Il essuya ses lunettes et les posa sur sa table de chevet. Il fallait, sans attendre, savoir la vérité. Sinon, la situation qui s'était créée dans la section musique finirait par poser des problèmes. Il était 2h du matin, il regarda par la fenêtre et vit de la lumière dans le bureau de Madame Zilinski. Il se coucha, fit d'horribles grimaces dans le noir et réfléchit à ce qu'il allait dire le lendemain. Monsieur Brook pénétra dans son bureau à 8h et s'embusqua derrière sa table de travail, prêt à sauter sur Madame Zilinski dès qu'elle traverserait le couloir. Il n'eut pas longtemps à attendre, il reconnut son pas et l'appela. Elle s'encadra dans la porte, elle semblait épuisée et lointaine.
« Comment allez-vous? J'ai passé une nuit très reposante. »«
Asseyez-vous, je vous prie. J'aimerais avoir une petite conversation avec vous. » Elle posa son porte-document sur la table et s'enfonça avec lassitude dans le fauteuil qui lui faisait face.
« Oui ?»«
Hier, au moment où je traversais le campus, vous êtes venu me parler. » Il s'agissait, si je ne me trompe, d'une pâtisserie et du roi de Finlande. Est-ce exact? Madame Zilinski tourna la tête, fixa des yeux le rebord de la fenêtre, cherchant à se souvenir. Il s'agissait d'une pâtisserie, répéta-t-il. Le visage fatigué s'éclaira.
C'est exact, en effet.
Elle se mit à parler avec animation.
Mais bien sûr, je vous ai raconté que j'étais arrêtée un jour devant ce magasin et que le roi de Finlande...
Madame Zilinski, il n'y a pas de roi de Finlande. Pendant un moment, elle parut complètement déconcertée, puis elle reprit sa phrase.
J'étais arrêtée un jour devant la pâtisserie de Bjarne, je regardais les gâteaux et au moment où j'ai levé les yeux, j'ai aperçu le roi de Finlande.
Madame Zilinski, je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de roi en Finlande. Elle reprit sa phrase une fois encore avec un entêtement désespéré.
« J'étais arrêté un jour à Helsingfors. »
Il la laissa continuer jusqu'au roi et, de nouveau, l'interrompit. « La Finlande est une démocratie. Il est impossible que vous ayez vu le roi de Finlande. Ce que vous venez de dire est inexact. Une inexactitude totale. » Jamais M. Brook n'oublierait le visage de Mme Zilinski à cet instant-là. Il y avait dans son regard de la stupeur, de la consternation et une sorte d'effroi secret. Comme quelqu'un qui assiste à l'effondrement, à la désintégration de son univers intérieur. « Je suis désolé, » dit M. Brook avec une sincère gentillesse. Mme Zilinski se ressaisit, releva le menton et dit d'un ton glacial.
« Je suis finlandaise. »«
Je ne remets pas ce point en question, » dit M. Brook, qui avait à la réflexion une certaine envie de la remettre en question.
« Je suis née en Finlande. Je suis citoyenne finlandaise. »«
C'est tout à fait possible, » dit M. Brook en élevant la voix.
« J'ai conduit une motocyclette pendant la guerre. J'étais agent de transmission. »«
Je ne mets pas votre patriotisme en doute. »
« Et juste parce que je vais distribuer les premiers sujets d'examen... »«
Madame Zilinski !» Il s'agrippait des deux mains au rebord de son bureau. « Le problème n'est pas là. Le problème est dans votre obstination à prétendre que vous avez vu... »« Enfin, que vous avez vu... » Il fut incapable d'achever. Madame Zilinski était pâle comme la mort, avec de grandes ombres autour de la bouche et le regard immense et méprisant des condamnés. Monsieur Brook eut la soudaine impression d'être un assassin. Une violente tempête de sentiments, remords, compréhension, amour irraisonné, l'obligea à couvrir de ses mains son visage. Il attendit que cette tempête intérieure s'apaise et disparaisse tout à fait. Puis il dit, d'une voix timide, « Oui, bien sûr, le roi de Finlande. A-t-il été aimable ?» Une heure plus tard, M. Brook était assis devant la fenêtre de son bureau. Le long des rues de Westbridge, les arbres avaient perdu leurs feuilles. Les bâtiments gris de l'université paraissaient tranquilles et abandonnés. Il regardait distraitement ce paysage familier. Lorsqu'il remarqua le vieux chien de la famille Drake qui boitillait vers le bas de la rue, c'était une image qu'il avait déjà aperçue 100 fois. Pourquoi, ce soir-là, lui parut-elle insolite? Il finit par comprendre, avec une sorte de surprise angoissée, que le vieux chien trottinait à reculons. Il le suivit des yeux, jusqu'à ce qu'il ait disparu, puis reprit la correction des canons que lui avaient remis ses élèves de contrepoint.
Bien, voilà une belle histoire. Donc, attendez, je vais baisser un peu le son, là. Voilà. Donc, c'est vrai que la mémoire peut nous jouer des tours. Alors maintenant, ce qui se passe pour Carson McCullers, donc elle, en 1952, elle s'installe en France, en fait, avec son mari, dans un presbytère à Bachivillers, dans l'Oise. Et l'année suivante, elle retourne aux États-Unis après le suicide de son mari. Alors, son quatrième et dernier roman s'appelle « L'horloge sans aiguille » et il est publié en 1961. Mais son recueil de nouvelles, « Le cœur hypothéqué », est publié à titre posthume en 1972. Donc là, je vous propose d'écouter tout d'abord le poème qui s'appelle « Le cœur hypothéqué » qui est lu par Viviane. Donc, le poème a été publié pour la première fois en 1948. On le retrouve là dans ce livre. Et ensuite, on va enchaîner directement par une autre histoire qui s'appelle Poldi, qui va être lue par Viviane et Philippe. Cette histoire qui est dans le cœur hypothéqué.
Le cœur hypothéqué. Les morts demandent un regard dédoublé, une ceinture jumelle, un accord de partage au-delà du tombeau. Car les morts ont droit de saisie, sur l'essence de l'amant, le cœur hypothéqué. Vois deux fois le verger fleuri sous la pluie grise, offre au ciel rose et froid une double surprise. Chaque émotion éprouvée, éprouve-la encore. Chaque impression, c'est par l'un en deux, c'est le droit reconnu des morts. Ordonne au cerveau dès qu'il réagit, que le nerf assigne aussitôt le maître schizophrène, sinon, comme un vagabond sans demeure, va se perdre l'amour aveugle. L'hypothèque des morts est connue, prépare tendrement la couronne, suspend la guirlande à la porte, mais la solitude des cendres, l'obscurité des eaux, qu'en savent les morts.
Poldi. Hans n'était plus très loin de l'hôtel quand une pluie glaciale se mit à tomber, brouillant l'éclat des lumières qui venaient juste de s'allumer le long de Broadway. Il fixa de ses yeux pâles une enseigne où il lut « Colton Arms ». Glissa la partition sous son manteau et se mit à courir. En pénétrant dans le hall de marbre grisâtre, il haletait à en avoir mal et la partition était toute froissée. Il fit un vague sourire au visage qui lui faisait face.
« Troisième étage pour cette fois !»
Les sentiments que le garçon d'ascenseur portait aux clients permanents de l'hôtel étaient très faciles à connaître. Lorsqu'il avait un certain respect pour quelqu'un qui se faisait conduire à son étage, il lui tenait la porte un moment avec un sourire obséquieux. Si Hans n'avait pas fait un petit bond rapide, la porte lui aurait coincé les talons. Poldi. Il s'arrêta en hésitant. Du fond du couloir mal éclairé venait le son d'un violoncelle, jouant une suite de phrases descendantes qui roulaient l'une sur l'autre, comme une poignée de billes dans un escalier. Il s'enfonça lentement vers cette musique et s'immobilisa un long moment devant la porte de la chambre. Une pancarte à l'écriture maladroite y était fixée par une punaise. Poldi Klein. Ne pas déranger pendant les exercices. La première fois qu'il avait vu cette pancarte, il s'en souvenait, il manquait un S à exercice. La température était très basse, l'humidité sortait des plis de son manteau en petites bouffées de froid. Se blottir contre le radiateur à peine tiède, près de la fenêtre du fond, ne lui apporta aucun soulagement. Poldi, Je t'attends depuis si longtemps. Si souvent j'ai marché dans les rues pour te laisser finir tes exercices, en cherchant les mots que je voulais te dire, que c'était beau, mein Gott, comme un poème, comme une petite mélodie de Schumann. Ça commençait ainsi, Paul dit. Sa main tapotait furtivement le métal rouillé. Chaude, elle était toujours chaude, s'il la posait vraiment sur le radiateur, il se brûlerait à s'en mordre la langue.
Hans, tu sais parfaitement que les autres ne représentent rien pour moi. Joseph, Nicolas, Harry, tous ces garçons que j'ai rencontrés. Et ce Kurt dont je t'ai parlé la semaine dernière. Absolument rien, du vent.
Il s'aperçut que ses mains froissaient la partition. Il regarda la couverture violemment colorée. Elle était humide, la couleur s'effaçait, mais à l'intérieur la partition était intacte. Mauvaise qualité. Quelle importance ! Il fit les 100 pas dans le couloir en grattant les boutons qu'il avait sur le front. Le violoncelle fit ronfler un arpège incertain. Ce concert, celui de Castelnuovo Tedesco, combien de temps allait durer ses exercices ? Il s'arrêta devant la porte, tendit la main vers la poignée. Non. Il était entré une fois, et elle l'avait regardé. Elle l'avait regardé et lui avait dit... La musique dansait dans sa tête et lui procurait une sorte d'ivresse. Il remuait nerveusement les doigts, comme s'il voulait transcrire au piano la partie d'orchestre. Elle devait être penchée en avant, ses doigts glissant le long des cordes. La lumière qui venait de la fenêtre était trop faible pour percer la pénombre du couloir. Il s'agenouilla brusquement, fixa son œil à la serrure, juste le mur et l'angle. Elle doit être assise près de la fenêtre. Juste le mur et sa collection de photographies. Casals, Piatigorsky, un type de sa ville natale qu'elle aimait beaucoup, Einfetz, mêlé à des cartes de Noël et de la Saint-Valentin. Tout près de lui, un tableau baptisé « L'aube », une dame aux pieds nus, tenant une rose, et le chapeau en papier rose tout défraîchi qu'elle avait gagné au 1er janvier l'année précédente. La musique gonfla jusqu'au crescendo et s'acheva par quelques coups d'archet rapides. Ah, la dernière note, un quart de ton trop bas, Paul dit. Il se releva rapidement et frappa à la porte avant qu'elle n'attaque l'exercice suivant.
Qui est là ?
Moi, Hans.
Bon, tu peux entrer.
Elle était assise près de la fenêtre de la cour, dans la faible clarté du crépuscule. Ses jambes, largement ouvertes, serraient son violoncelle. Elle le leva très haut les sourcils avec l'air d'attendre quelque chose et laissa tomber son archet. Il regardait obstinément les gouttes de pluie contre la vitre. « J'étais juste venu t'apporter la nouvelle chanson à la mode qu'on va jouer ce soir, celle dont tu nous as parlé. » Elle tira sur sa jupe, qui était retroussée jusqu'au revers de ses bas. Il ne put s'empêcher de suivre son geste. Elle avait les mollets saillants, une maille filait à l'un de ses bas. Il sentit que les boutons de son front s'empourpraient et préféra revenir aux gouttes de pluie.
Tu m'as entendu travailler ?
Oui.
Franchement, tu ne trouves pas qu'il y a de la spiritualité dans mon jeu ? Que la musique sonne et vous emporte vers les cimes ?
Elle était congestionnée. Une goutte de transpiration se faufila jusqu'au petit sillon qui lui partageait les seins et disparut dans son corsage. Oui.
J'ai eu cette impression, moi aussi. Je crois que mon jeu s'est beaucoup approfondi ce dernier mois.
Elle eut un vaste haussement d'épaules.
C'est la vie qui m'a apporté ça. Ça se produit chaque fois qu'une chose pareille m'arrive. C'était différent autrefois. Tu ne joues bien que si tu as souffert.
Ah, c'est ce qu'on prétend. Elle le regarda un long moment, espérant une approbation un peu plus chaleureuse, puis pinça les lèvres avec agacement.
Oh, cet animal de violoncelle me rend folle. Tu sais ce truc de forêt en mi bémol, la note qui revient et revient toujours, et tu as l'impression d'avoir bu. Je suis affolée par ce mi bémol. C'est un véritable supplice.
Ah, tu ne peux pas le donner à réparer ?
Évidemment, mais ça n'arrangera rien. Le prochain truc que je vais travailler, ce sera sûrement dans le même ton. Et puis, ça coûtera de l'argent. Il faudra que je leur laisse mon violoncelle pendant quelques jours. Et je jouerai avec quoi pendant ce temps-là ?
Quand il avait de l'argent, elle pouvait faire...
C'est un véritable scandale quand je pense qu'il y a des gens qui jouent comme leurs pieds, qui s'offrent des violoncelles de premier ordre. Et moi, je ne peux même pas en avoir un convenable. Je devrais refuser de jouer sur une pareille camelote. Ça gâte mon jeu. Tout le monde te le dira. Comment veux-tu que je tire une seule note de cette cloche à fromage ?
Quelques notes d'une sonate qu'il était en train de travailler allaient et venaient dans sa tête. Paul dit... Que dire ensuite ? Je t'aime, t'aime, t'aime.
D'ailleurs, à quoi bon m'en faire ? Avec le job sinistre que nous avons...
Elle se leva avec un grand geste dramatique et alla poser son instrument dans un coin de la chambre. Quand elle alluma la lampe, un cercle de lumière éclatante cerna d'ombre les courbes de son corps.
Si tu savais, Hans, je suis tellement énervée que j'en hurlerais.
La pluie éclaboussait les vitres. Il se gratta le front et la regarda faire les 100 pas. Quand elle s'aperçut qu'un de ses bas avait filé, elle eut un petit sifflement de fureur, cracha sur le bout de son index et se pencha pour coller ce point de salive à la dernière maille.
Personne n'a autant de problèmes de bas qu'une violoncelliste. Et pour quel résultat ? Vivre dans une chambre d'hôtel, gagner 5 dollars par soirée, en jouant pendant 3 heures de la musique de basse string, chaque mois, 2 paires de bas neufs. Le soir, je me contente de rincer le pied, le haut file quand même.
Elle décrocha une paire de bas pendue à côté d'un soutien-gorge et les enfila après avoir enlevé les autres. Ses jambes étaient très blanches, piquetées de poils noirs. Des veines bleues lui entouraient les genoux.
Oh, excuse-moi, ça ne te gêne pas, j'espère ? Pour moi, t'es comme un petit frère. Et on va se faire virer ce soir si je joue avec des bas pareils.
Il était debout devant la fenêtre et regardait la pluie brouiller le mur de l'immeuble voisin. Sur le rebord de la fenêtre qui lui faisait face, il y avait une bouteille de lait et un tube de mayonnaise. En dessous, quelqu'un avait mis des vêtements à sécher, mais avait oublié de les rentrer. Il claquait tristement dans le vent et la pluie. Un petit frère, Seigneur.
Et les robes ? Les robes ? Les coutures qui craquent sans arrêt parce que tu as les genoux écartés. Sur ce plan-là, heureusement, ça va mieux. Je te connaissais quand tout le monde portait des jupes ultra courtes. C'était terrible de vouloir suivre la mode sans être indécente en jouant. Je te connaissais ou pas ?
Non. Il y a 2 ans, les jupes étaient à peu près comme aujourd'hui.
C'est vrai. Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés.
Après le concert... Tu étais avec Harry et...
Hans.
Elle se pencha et le regarda avec intensité. Elle était si proche de lui qu'il pouvait sentir son odeur.
J'ai été comme folle toute la journée, à cause de lui.
Qui ?
Tu le sais parfaitement, lui. Kurt. Oh, Hans, il m'aime, tu crois ?
Paul dit, mais... Tu l'as vu combien de fois ? Vous connaissez à peine. Il lui avait tourné le dos, chez les Levin, quand elle lui avait fait des compliments sur son jeu et...
Que je l'ai vu 3 fois seulement, ça n'est pas ce qui compte. Je devrais être inquiète, mais son regard, la façon dont il parlait de mon jeu, quelle âme noble, ça s'entend dans sa musique. As-tu déjà entendu quelqu'un jouer la sonate funèbre de Beethoven, comme il l'a joué ce soir-là ?
Bah oui, c'était bien.
Il a dit à Mrs. Levin... que mon jeu laissait deviner un tel tempérament.
Il aurait voulu la regarder. Ses yeux pâles restaient fixés sur la pluie.
Il est tellement gemütlich, ein Edelmensch. Qu'est-ce que je dois faire ? Hans, réponds.
Je sais pas.
Ah ben ne prends pas cet air sinistre. Qu'est-ce que tu ferais ?
Il essaya de sourire. As-tu des nouvelles de lui ? A-t-il téléphoné ou écrit ?
Non, mais je suis sûre que c'est par délicatesse. Il a peur que je sois choquée ou que je le repousse.
Mais ne doit-il pas épouser la fille de Mrs. Levin au printemps prochain ?
Si, mais c'est une erreur. Que peut-il attendre d'une pareille ruminante ?
Mais Paul dit... Elle leva les bras pour aplatir ses cheveux contre sa nuque. Sa vaste poitrine se trouva projetée en avant. On devinait les muscles de ses bras à travers la soie du corsage.
Le soir de son concert, tu sais, j'avais l'impression qu'il ne jouait que pour moi. Il me regardait dans les yeux chaque fois qu'il saluait. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu à ma lettre. Il a tellement peur de me blesser. Il demande à la musique de parler à sa place.
Hans avala sa salive et sa pomme d'Adam monta et descendit le long de son cou délicat. Mais tu lui as écrit ?
J'ai été obligée de le faire. Une artiste ne peut pas maîtriser la violence de ses sentiments quand il la bouleverse autant.
Tu lui as écrit quoi ?
Je lui ai dit à quel point je l'aimais. Ça fait 10 jours, une semaine après que je l'ai eu rencontré chez les Levin.
Et tu n'as pas de nouvelles ?
Non. Mais tu ne comprends pas ce qu'il ressent ? J'étais tellement sûre qu'il ne répondrait pas que je lui ai envoyé un autre petit mot avant-hier pour lui dire de ne pas s'inquiéter, que je serai toujours la même.
D'une main hésitante, Hans arrangea la raie de ses cheveux. Mais Paul dit, il y en a eu tellement d'autres depuis que je te connais. Il se leva, posa un doigt sur la photographie qui était à côté de celle de Casals. Le visage lui souriait, des lèvres épaisses encadrées d'une moustache noire, une petite marque rouge à la base du cou. 2 ans plus tôt, Paul D lui avait fait remarquer cette marque elle-même, en lui expliquant que c'était là qu'il appuyait son violon, que c'était toujours irrité, qu'elle avait l'habitude d'y passer le doigt doucement. Elle appelait ça la lèpre du violoniste. Pour aller plus vite, ils disaient entre eux « la violonite ». Hans regardait fixement la marque. Elle se voyait à peine. Il se demandait si elle était vraiment sur la photographie ou si ce n'était que l'usure du temps. Le regard sombre et perçant était fixé sur lui. Il sentit ses genoux trembler. Il s'assit de nouveau.
« Mais réponds, Hans, il m'aime ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois vraiment qu'il m'aime ? Et qu'il attend le moment favorable pour me répondre ? Qu'est-ce que tu crois ?»
Un léger brouillard semblait s'être infiltré dans la pièce. « Oui, » répondit-il très lentement. Elle changea de visage.
« Hans !»
Il se pencha en avant, il tremblait.
« Hans, tu as l'air tellement bizarre. Ton nez remu, tes lèvres tremblent. On dirait que tu vas pleurer. Est-ce que... »
« Paul dit... » Elle se mit à rire bruyamment.
« Tu ressembles à un drôle de petit chat qui appartenait à mon père. »
Il se tourna rapidement vers la fenêtre pour qu'elle ne voie pas son visage. La pluie coulait toujours contre la vitre. Les lampes de l'immeuble voisin étaient allumées. Elles brillaient doucement dans le crépuscule gris. Ah ! Il se mordit les lèvres. Derrière l'une des fenêtres, on apercevait une ombre, l'ombre d'une femme. Paul dit, dans les bras d'un homme très grand, aux cheveux très noirs, et sur le rebord de la fenêtre, entre la bouteille de lait et le tube de mayonnaise, il y avait un drôle de petit chat jaune sous la pluie qui regardait à l'intérieur. De ses longs doigts osseux, Hans se frotta doucement les paupières.
Ah, l'amour, c'est compliqué. Alors, l'agent littéraire de Carson McCullers, Sylvia Chatfield, avait joint une annotation. Comment lorsque le Carson lui a envoyé la nouvelle, donc elle avait mis une petite annotation en mettant retour pour seconde lecture. Alors elle dit comme ça, voilà un excellent exemple de nouvelle picturale, c'est-à-dire dramatisation complète d'un thème court, description d'une situation presque statique dont les éléments narratifs appartiennent au passé et au futur. C'est une histoire assez banale, mais pas trop. Vous pouvez échapper à cette banalité, comme l'a fait Villa Cater dans Lucy Gehert, grâce à la véracité, à la précision et à la richesse du détail. Beaucoup de nouvelles se vendent grâce à la qualité du détail. Comme je l'ai constaté déjà, les vôtres sont de cet ordre. Les détails sont bons, très vivants. Une nouvelle qui s'appuie sur une certaine connaissance technique peut avoir également des chances de succès. Votre connaissance technique musicale, qui est éclatante, sonne juste. Un musicien jugerait mieux que moi. Le lecteur moyen aimerait que la nouvelle soit un peu plus vivante, qu'elle avance davantage et qu'elle permette de mieux comprendre ce qui va arriver. Mais moi, je l'aime telle qu'elle est. Elle n'a aucun besoin d'être retravaillée. Voilà, donc ça c'était le commentaire de l'agent littéraire de Carson McCullers pour la nouvelle Paul D. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter une autre nouvelle. Toujours qui vient toujours comment du recueil le cœur hypothéqué. Et donc cette nouvelle-là s'appelle « L'art et Monsieur Mahonnet ». Donc cette nouvelle, elle est parue en 1949 dans la revue « Mademoiselle ».
L'art et Mr. Mahonnet. C'était un homme grand et fort, un entrepreneur. Et c'était le mari de la petite Mrs. Mahonnet, si maigre, qui se donnait tant de mal pour le club et pour les réunions culturelles. Homme d'affaires avisé, il possédait une briqueterie et un atelier de menuiserie. Mr. Mahonnet évoluait pesamment, mais avec une souriante docilité, dans le sillage artistique de Mrs. Mahonnet. Il avait très bien appris sa leçon. Il avait acquis l'habitude de parler répertoire et de suivre une conférence ou un concert avec l'expression de tristesse résignée qui est de mise. Il était capable de discuter art abstrait. Il avait même joué un rôle dans deux productions du Petit Théâtre, une fois comme maître d'hôtel, une autre comme soldat romain. Ce Mr. Mahonnet, éduqué avec tant d'application, si souvent réprimandé, comment a-t-il pu faire fondre sur sa femme et lui un tel déshonneur ? Le pianiste était José Iturbi ce soir-là, et c'était le premier concert de la saison, une soirée de gala. Les Mahonnet s'étaient donné un mal fou pour soutenir la campagne en faveur de la Ligue des Trois Arts. Mr. Mahonnet avait vendu lui-même plus de 30 abonnements pour la saison. En présence de ses relations professionnelles ou des hommes d'affaires de la ville, il parlait de ce programme de concert comme d'un orgueil pour notre communauté, comme d'une nécessité culturelle. Les Mahonnet avaient permis qu'on se serve de leur voiture. Ils avaient invité tous les souscripteurs à une garden party. Trois barmen de couleur en veste blanche servaient des rafraîchissements et leur toute nouvelle demeure, style Tudor, avait été entièrement cirée et fleurie pour la circonstance. En tant que champion de l'art et de la culture, les Mahonnet avaient une réputation bien assise. Le début de cette fatale soirée ne laissa en rien présager ce qui allait se passer. Mr. Mahonnet chanta sous sa douche et s'habilla avec un soin méticuleux. Il avait acheté une orchidée chez Duff, le fleuriste. Quand Ellie poussa la porte de sa chambre, dans leur nouvelle demeure, ils occupaient des chambres séparées mais communicantes. Il finissait de se coiffer. Il était superbe dans son smoking. Ellie avait épinglé l'orchidée sur l'épaulette de sa robe en crêpe bleue. Elle était ravie. Elle lui dit en lui tapotant le bras:
« Tu as l'air très élégant ce soir, Terence, indiscutablement distingué. »
Le corps épais de Mr. Mahonnet broncha de bonheur et son visage haut en couleur, marqué aux tempes d'un triangle de veines, devint écarlate. « Tu es si belle, Ellie, toujours si belle. Je me demande parfois pourquoi tu as épousé un... » Elle l'interrompit d'un baiser. Après le concert, il y avait une réception chez les Harlow. Les Mahonnet y étaient évidemment invités. Dans cet herbage de raffinement, Mrs. Harlow tenait la tête du troupeau. Oh, ces comparaisons campagnardes, Ellie les détestait à un point. Mais Mr. Mahonnet, qui posait galamment un manteau du soir sur les épaules de sa femme, ne se souvenait plus qu'elle l'avait si souvent réprimandé. Ce qui est drôle, c'est qu'avant de commettre son infamie, Mr. Mahonnet prit à ce concert plus de plaisir qu'à aucun autre. Pas de morceau de ce bac monotone et épuisant. Une musique qui sonnait comme une marche et dont la mélodie lui semblait familière. Il était donc assis, il prenait plaisir à cette musique, et de temps en temps il jetait un coup d'œil vers Ellie. Elle avait sur le visage cette expression de douleur profonde et inconsolable que faisait toujours naître chez elle la musique classique. Entre chaque morceau, elle portait la main à son front d'un air égaré, comme si tant d'émotions étaient trop lourdes à supporter. Mr. Mahonnet applaudissait avec entrain, de ses mains roses et potelées, heureux de pouvoir les remuer à son tour. À l'entracte, les Mahonnet gagnèrent lentement le foyer. Miss Mahoney se fit harponner par la vieille Mrs. Walker.
J'attends Chopin, j'ai toujours adoré la musique en mineur. Pas vous ?
J'ai l'impression que plus vous êtes triste, plus vous êtes contente. Miss Walker, qui était professeure d'anglais, répliqua avec vivacité.
Maman a une âme celte et mélancolique. Vous oubliez qu'elle est de souche irlandaise ?
Devinant qu'il avait commis une sorte d'erreur, Mr. Mahoney dit maladroitement « Moi aussi, j'aime la musique en mineur. » Tip Mayberry lui prit familièrement le bras.
« Voilà un gars qui ne se prend pas les pieds dans les touches. »«
Il possède une excellente technique, » répondit Mr. Mahoney d'un ton circonspect.
« Encore une heure, »
soupira Tip Mayberry d'un ton plaintif.
Si on pouvait s'éclipser en douce.
Mr. Mahoney s'éloigna prudemment. Il aimait l'atmosphère des spectacles et des concerts du petit théâtre, mousseline, corsage, smoking de rigueur. Envahi par une bouffée d'orgueil et de plaisir, il allait et venait dans le foyer, saluant aimablement les dames, discutant avec une respectueuse autorité du tempo et des mazurkas. Le désastre eut lieu après l'entracte, au cours du premier morceau. C'était une longue sonate de Chopin, un premier mouvement furieux, un second rapide et saccadé. Mr. Mahoney suivit le troisième mouvement en soulignant à bon escient le rythme avec son pied, une marche funèbre, solennelle, coupée en son milieu par un mouvement de valse. Marche funèbre qui s'acheva en une succession d'accords fracassants. Le pianiste leva la main et se renversa légèrement sur son tabouret. Mr. Mahoney applaudit. Il était tellement sûr que c'était fini qu'il applaudit de tout son cœur une demi-douzaine de fois avant de s'apercevoir avec horreur qu'il était le seul à applaudir. Avec une vigueur diabolique et précipitée, José Iturbi se jeta de nouveau sur son clavier. Mr. Mahoney était paralysé par l'angoisse. Les minutes qui suivirent furent les plus horribles de sa vie. Les veines de ses tempes gonflèrent en devenant rouges sombres. Il cacha ses mains coupables entre ses cuisses. Si Ellie lui adressait au moins un signe discret de consolation, lorsqu'il osa la regarder, elle avait un visage de glace et fixait la scène avec une attention désespérée. Après d'interminables minutes d'humiliation, Mr. Mahoney allongea timidement la main vers la cuisse couverte de crêpes d'Ellie. Elle s'écarta et croisa les jambes. Pendant près d'une heure, Mr. Mahoney dut supporter publiquement sa honte. Il jeta un coup d'œil vers Tip Mayberry et un démon haineux envahit son cœur naturellement bon. Tip ne faisait aucune différence entre une sonate et les Sweet Belly Blues. Il était pourtant là, à sa place, béat, et personne ne faisait attention à lui. Il fallait assister quand même à la réception. Mr. Mahoney reconnut que c'était la seule chose à faire. Ils s'y rendirent sans échanger un mot. Mais quand la voiture fut garée devant la maison des Harlow, Mrs. Mahoney dit
« Tout être humain doté d'un peu de bon sens, c'est qu'on attend pour applaudir que tout le monde applaudisse. C'est du moins ce que je croyais. »
La soirée fut désolante pour lui. Les invités entouraient José Iturbi pour lui être présentés. Étant le seul à ignorer qui avait applaudi, il fut aussi aimable avec Mr. Mahoney qu'avec les autres. Mr. Mahoney buvait du scotch caché dans son coin, derrière le piano à queue. La vieille Mrs. Walker et sa fille rôdaient avec la tête du troupeau autour de Mr. Iturbi. Ellie regardait les livres de la bibliothèque. Elle finit même par en prendre un et par lire un moment le dos tourné. Il restait seul dans son coin avec son whisky soda. Tip Mayberry vint finalement le rejoindre.
« Vu le nombre de billets que vous avez vendus, j'estime que vous avez droit à un applaudissement supplémentaire. »
Et il lui adressa un petit clin d'œil empreint d'une complicité fraternelle que Mr. Mahoney fut presque sur le point de partager.
Now I'm going to play Fantasy Impromptu by Chopin, the poet of the piano.
Eh oui, qui n'a pas commis l'erreur voilà, d'applaudir avant la fin. Voilà, c'est arrivé à certains d'entre nous, sûrement. Donc là, le pianiste que l'on entend, c'est bien sûr José Iturbi. Alors que la plupart des gens ne connaissent pas forcément, mais ça vous dit peut-être quelque chose de Tom et Jerry, hein. Et quand on voit voilà, Tom jouer du piano dans les dessins animés, eh bien c'est toujours bien sûr José Iturbi qui joue à la place de Tom. Voilà. Donc bon bah cette dernière petite nouvelle, voilà, donc a été écrite en 1949. Par Carson Baculers. Donc, bah, je vous conseille vivement hein, de lire les nouvelles de Carson Baculers parce que elles sont très, voilà, très plaisantes à lire. Bon, il y en a, voilà, certaines qui sont plus sombres que d'autres, mais on passe toujours un moment très agréable à lire ces nouvelles. Puis, je trouve que l'avantage des nouvelles, voilà, c'est que ça dure 5 pages, 10 pages, parfois 20 ou 30. Et donc, voilà, bah, si on n'a pas beaucoup de temps, on peut lire une nouvelle et puis bah, ça nous nourrit l'esprit voilà, pendant un petit moment. Alors, donc la prochaine fois, on fera une émission bah, spéciale Noël. Donc, eh bien, bonne fin de semaine et puis à bientôt.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.